Eric, bienvenue au service francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le monde aujourd'hui avec Chérubin Dorcide et Morgane Guerriec en direct de Washington. Ravi de vous retrouver à l'écoute de VOA Afrique.
Les grands points de l'actualité au Nigeria après les attaques meurtrières de lundi. Boko Haram revient à la charge, cette fois avec des pillages, vols et incendies de bâtiments de police.
République centrafricaine, un an après l'arrivée de la force française, le commandant de Sangaré s'estime que la situation est en voie de se normaliser.
République démocratique du Congo, la mission de l'ONU annonce la réduction de ses effectifs en 2015.
Aux États-Unis, une décision d'une chambre de mise en accusation ravive les tensions raciales à New York. De nouveau, un policier blanc n'est pas inculpé pour avoir tué un noir non armé.
Moi, je suis un parent, j'ai un fils qui a 26 ans et je le dis constamment, vous devez vous soumettre aux demandes de la police.
Marc Elias, ancien chef de la police du nord de Miami. Et nous aurons une nouvelle page économique, les sports et la musique. Mais d'abord, le journal.
Au Nigeria, le groupe islamiste Boko Haram a attaqué deux nouvelles localités du nord-est du pays, ainsi qu'une usine Lafarge, déjà pillée il y a tout juste un mois. Claire Morin-Gibourg.
Ce matin, Boko Haram a successivement attaqué les villes de Bajoga et d'Achaka, où les terroristes ont pillé des banques et volé des véhicules et des médicaments. À Bajoga, les affrontements avec les forces de l'ordre ont duré 3 heures. Un commissariat de police et plusieurs sièges de partis politiques ont été brûlés. Les insurgés ont quitté la ville suite à l'envoi de renforts. Le groupe islamiste a ensuite effectué un raid sur une cimenterie du groupe français Lafarge, située en périphérie d'Achaka, mais aucune victime n'est à déplorer. Une cimenterie qui avait déjà été prise pour cible le mois dernier. Ce nouveau raid fait suite à une double attaque meurtrière lancée lundi sur les capitales régionales de Maïdougouri et de Damaturu, également dans le nord-est, épicentre de l'insurrection islamiste. Depuis 8 mois, Boko Haram a pris le contrôle de plus d'une vingtaine de villes dans le nord-est du Nigeria.
Au Mali, 3 membres d'une même famille ont été enlevés par des hommes armés près de Meneka, à la frontière du Niger, Idriss Fall.
Ces 3 Maliens, membres d'une même famille, étaient partis en voiture de Meneka pour Bani Bangou au Niger. Leur véhicule a été bloqué par des hommes armés. Les ravisseurs sont repartis en voiture avec les 3 otages. Bani Bangou au Niger a été la cible de 2 attaques en octobre et en novembre qui ont été revendiquées par le Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest qui avait occupé le nord du Mali. Les forces de sécurité maliennes avancent 2 hypothèses, des représailles contre des informateurs ou un règlement de compte entre communautés. En septembre, 5 Touaregs d'une même famille avaient été enlevés près de Tombouctou. 4 ont été relâchés, mais le 5e a été décapité.
La République centrafricaine en voie de normalisation. C'est en tout cas le point de vue du commandant de la force française Sangaris, 1 an après le début de l'opération. Le général Bello Desminières souligne que le niveau de sécurité est sans commune mesure avec la situation rencontrée au moment du déploiement français. Il reconnaît toutefois des pics d'insécurité dans le pays. Estimant qu'un palier sécuritaire a été atteint, le général préconise de dépasser le cadre des actions purement militaires et de l'élargir à une approche beaucoup plus globale.
République démocratique du Congo, la mission de l'ONU compte réduire ses effectifs en 2015. Si l'autorité de l'État est restituée, on peut réduire notre présence, explique le chef de la MONUSCO, Martin Kobler. Une délégation de New York s'est d'ailleurs rendue sur place pour voir comment les dispositifs pouvaient être réduits. Mais alors que la MONUSCO estime que la situation sécuritaire s'améliore, l'Est de la RDC est en proie à de violents groupes armés. Rappelons que cette force onusienne, qui compte aujourd'hui quelques 20 000 hommes, est l'une des plus importantes au monde.
Triste bilan au Kenya, les violences intercommunautaires ont fait plus de 300 morts cette année et plus de 220 000 personnes ont dû fuir leur foyer. Tels sont les chiffres des Nations Unies. Le nombre de déplacés aurait ainsi quadruplé par rapport à 2013. Le vol de bétail et les meurtres en représailles entre communautés rivales se sont intensifiés, notamment à cause de la sécheresse.
La police kényane a interpellé 77 ressortissants chinois accusés d'être à la tête d'un réseau cybercriminel et de mystérieux centres de contrôle installés dans des villas d'un quartier chic de Nairobi. Michel Joseph.
Selon la police, citée par le quotidien Daily Nation, le gang s'apprêtait à lancer une attaque contre les systèmes de communication du pays. Il était équipé de matériel lui permettant d'infiltrer des comptes bancaires, des distributeurs d'argent liquide ou le système de paiement par téléphone mobile M-Pesa. Les suspects sont en cours d'interrogatoire, a confirmé le directeur du département d'enquête criminelle, Ndegwa Muhoro. La police a lancé ses raids après une enquête sur l'incendie d'une des villas louées par le groupe et où le feu avait fait un mort. Selon lui, les 77 personnes interpellées entre dimanche et mercredi sont officiellement inculpées de présence illégale dans le pays et usage d'équipements de communication radio sans les autorisations nécessaires. La ministre kényane des Affaires étrangères, Amina Mohamed, a clairement fait savoir qu'une entière coopération du gouvernement chinois était nécessaire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Accent de colère, manifestations de rue, critiques acerbes dans les médias. Telles ont été les premières réactions à la décision d'une chambre de mise en accusation de Staten Island, New York, de ne pas inculper un policier blanc qui a tué par étranglement un homme noir de 43 ans au cours d'une interpellation. C'était au mois de juillet. Le crime de la victime, il vendait des cigarettes sans permis. On fait le point avec Lionel Gaïma.
À peine quelques heures après la décision du grand jury, une foule s'est réunie à Times Square, endroit emblématique de la ville de New York, lançant des slogans mais sans violence. La police a toutefois arrêté 83 personnes au cri de « No justice, no peace », »,« Pas de justice, pas de paix ». Ils ont défilé, forçant les policiers à bloquer l'accès au Rockefeller Plaza, où devait se dérouler une cérémonie traditionnelle en prévision de la Noël. Non loin de là, à la Grande Gare centrale, des dizaines de personnes se sont allongées sur le sol dans une protestation silencieuse. Les gens doivent savoir que l'on se soucie de ce qui se passe et que ce n'est pas normal, dit cette manifestante. C'est New York et ce qui se passe dans d'autres États ne peut pas arriver ici. Le médecin légiste à New York avait conclu à un homicide dans le cas d'Eric Garner. Une poursuite au civil est très probable, estiment certains juristes. De son côté, le ministre de la Justice, Eric Holder, a annoncé l'ouverture d'une enquête fédérale sur la mort d'Eric Garner, qu'on a vue sur une vidéo amateur implorée « Je ne peux pas respirer », alors que le policier Daniel Pantaleo, 29 ans, l'étranglait. Le président Barack Obama, le premier noir à occuper cette fonction, reconnaît que de nombreux Américains sont frustrés par les récents événements.
We recognize this is an American problem and not just a black problem or a brown problem or a Native American problem. This is an American problem. When anybody in this country is not being treated equally under the law, that's a problem.
Lorsque n'importe qui dans ce pays n'est pas traité de manière égale devant la loi, c'est un problème. Et il me revient en tant que président d'aider à le résoudre. Alors que les tensions sont encore vives dans les communautés noires suite à la non-inculpation du policier blanc qui a tué Michael Brown, un jeune noir non armé dans le Missouri, et le meurtre d'un adolescent noir dans l'Ohio parce qu'il jouait avec un pistolet factice, la non-inculpation des Pantaleo risque de mettre de l'huile sur le feu.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a fait savoir que de meilleures relations entre la Russie et l'Occident sont possibles si Moscou cesse de soutenir les séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine répondait ainsi au président russe Vladimir Poutine, qui a accusé Washington et ses alliés d'inventer des prétextes pour freiner la Russie. Jean-Roger Bion.
John Kerry s'exprimait ce jeudi à Bâle, en Suisse, à une réunion de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Aux accusations du numéro 1 russe, le chef de la diplomatie américaine a répondu que Moscou est isolé par ses propres actions. Le chef de la diplomatie américaine a déclaré que le soutien de la Russie aux rebelles en Ukraine entachait la crédibilité de Moscou, avertissant que ses citoyens en paieraient le prix économique et humain. L'Occident a imposé des sanctions économiques douloureuses à la Russie, accusant Moscou de fournir des armes et des troupes aux rebelles de l'est de l'Ukraine. Kerry a réitéré aujourd'hui ses accusations, affirmant que la Russie a violé les termes d'un accord de cessez-le-feu signé par les rebelles et Kiev au mois de septembre. La Russie nie avoir fourni des armes et des troupes aux séparatistes, mais estime que son implication en Ukraine était justifiée après le soutien des Occidentaux à ce que Moscou considère comme un coup d'État qui a renversé les dirigeants pro-russes dans le pays. La crise ukrainienne sera au cœur d'une réunion cette nuit entre John Kerry et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
Sachez aussi qu'en dépit des sanctions imposées à la Russie, entraînant la détérioration de l'économie russe, Vladimir Poutine demeure très populaire dans son pays. Un récent sondage lui donne une cote de 85% et 57% de Russes dans les 48 régions du pays pensent qu'il est l'un de leurs dirigeants les plus dignes de confiance.
Et au moins 10 policiers sont morts et 28 autres blessés dans une fusillade à Grozny, capitale de la République de Tchétchénie en Russie. Et au moins 7 personnes ont été tuées et 20 autres blessées aujourd'hui dans deux attentats à la voiture piégée à Bagdad. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique.
Nouvelle rubrique dans cette émission, la Minute Éco, pour tout savoir sur l'actualité économique en Afrique. Avec nous en direct dans ce studio, Nicolas Pinault, bonsoir.
Bonsoir Morgane.
On commence par l'arrivée d'un géant français de la vente en ligne au Cameroun.
Après s'être implanté en Côte d'Ivoire et au Sénégal, la plateforme de vente en ligne Cdiscount, filiale du groupe Casino, se lance désormais au Cameroun. Depuis hier, les clients camerounais peuvent accéder à plus de 50 000 références disponibles sur le site dédié www.cdiscount.cm.
La 4G arrive au Kenya.
Safaricom a lancé aujourd'hui le premier réseau 4e génération dans le pays. La téléphonie mobile est un véritable enjeu pour Nairobi qui espère qu'elle contribuera à 10% du PIB d'ici 2017. Aujourd'hui, ce n'est que 3%.
Autre bonne nouvelle pour les consommateurs en Tanzanie.
L'agence de régulation tanzanienne de l'énergie a décidé de baisser les prix du carburant. Le prix maximum à la pompe dans la deuxième économie d'Afrique de l'Est sera d'$1,16 à Dar es Salaam, soit une baisse de 6,83%. Les prix du diesel et du kérosène ont aussi été réduits de plus de 5%.
Autre or, mais brun cette fois-ci, le cacao ivoirien.
Avec 520 000 tonnes de cacao transformées cette année, la Côte d'Ivoire talonne le numéro 1 mondial, la Hollande. La Côte d'Ivoire, je vous le rappelle, est déjà le premier pays producteur de cacao avec 1 741 000 tonnes pour la dernière récolte.
Merci Nicolas Pinault pour cette Minute Éco. Suivez désormais ce segment spécial sur l'économie juste après le journal. Le Monde aujourd'hui, c'est aussi les sports. Retour sur le tirage au sort de la phase finale de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, Bagassi Koura.
Oui, bonsoir Chérubin. Alors on commence donc par le pays organisateur qui affrontera dans le groupe A le Burkina Faso, le Gabon et le Congo pour Sita Sangaré, le président de la Fédération Burkinabé de football. Les étalons vice-champions d'Afrique sont ravis de jouer face au pays hôte.
C'est une bonne chose de pouvoir jouer dans le groupe du pays organisateur parce qu'il ne faut jamais oublier que le football, c'est avant tout un spectacle. Et le pays organisateur évoluant devant son public, cela garantit une certaine ferveur populaire.
Voilà, c'était donc Sita Sangaré, président de la FBF. À noter que le Congo-Brazzaville n'a plus joué de CAN depuis 1990, Chérubin, et son sélectionneur Claude Leroy lui participera à sa 8e phase finale en tant que sélectionneur.
Retrouver cette Coupe d'Afrique des Nations en faisant le match d'ouverture, c'est une chance extraordinaire. Donc maintenant, on va essayer d'être digne de cette compétition. On va essayer de bien jouer au foot et d'être exemplaire dans le comportement. Le Gabon, ils sont toujours là depuis un moment. C'est une grosse équipe. Le Burkina Faso, c'est vice-champion d'Afrique. Et la Guinée équatoriale, ce sont les organisateurs. Donc, bien évidemment, ça va être difficile, mais on va essayer de se battre pour faire honneur à cette Coupe d'Afrique des Nations.
Voilà, Claude Leroy, sélectionneur des Diables Rouges congolais qui ont sorti, Chérubin, les champions d'Afrique, le Nigeria.
Parlons à présent du groupe de la mort.
Oui, c'est le groupe B, donc, où il y a bien sûr les autres Congolais de la RDC. Ils seront face à la Zambie au Chipolopolo, champion d'Afrique 2012, mais aussi le Cap-Vert et la Tunisie. Écoutons Florent Ibengue, sélectionneur de la RDC.
Un groupe équilibré avec trois équipes qui sont a priori au-dessus de nous. La Tunisie, le Cap-Vert et puis à la Zambie. Puis un novice qui est la RDC, donc qui fait office de petit poussé. Donc un groupe qui sera très relevé pour nous, qui sera difficile à jouer. Mais on a l'envie et puis la volonté d'embêter tout le monde et d'accrocher une des deux premières places.
Voilà. D'accrocher une des deux premières places. Parole de Florent Ibengue, sélectionneur de la RDC.
Et je pensais au groupe C avec l'Algérie, première nation africaine au classement FIFA. Il faut dire, Bagassi Koura, que le Ghana, l'Afrique du Sud et le Sénégal sont là et ça va faire des étincelles sur le terrain.
Oui, et on est très impatients pour retrouver cet événement à partir du 8 janvier sur la Voix de l'Amérique.
Merci Bagassi Koura. Restez branchés sur la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcil et Morgane Guiriec en votre compagnie pour cette édition du 4 décembre 2014. Les dossiers du jour, les juges de la Cour pénale internationale ont donné hier une semaine au procureur Fatou Bensouda pour qu'elle apporte des preuves supplémentaires contre le président kényan Uhuru Kenyatta ou à défaut retirer les accusations. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Aboubakri Mbodji, secrétaire exécutif de la RADO, la rencontre africaine de défense des droits de l'homme.
C'est une décision qui nous choque. Nous suivons de près la bataille menée par le Kenya au niveau de l'Union africaine pour se désengager vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Et c'est des États africains qui ont ratifié le statut de Rome. Et ce sont les mêmes dirigeants qui se retournent contre la Cour pour essayer de la discréditer.
Fatou Bensouda, pour le moment, elle n'a pas beaucoup de preuves.
Elle n'a pas beaucoup de preuves. Là également, le Kenya lui-même a eu à engager un processus au niveau national qui ne va pas dans le sens de fournir suffisamment de preuves. C'est un processus qui a été déjà pipé dès le départ. Le gouvernement actuel de Kenyatta, il y a, si vous voulez, une sorte de sabotage. C'est des attitudes irresponsables des États qui ont déjà pris des engagements et qui aujourd'hui font volte-face.
Il y a des voix qui s'élèvent et qui disent aussi que la CPI ne juge que les Africains.
Le statut de Rome, il faut qu'il y ait, par exemple, que l'État soit parti du statut de Rome. Or, vous prenez aujourd'hui la Palestine, nous dénonçons les violations qui se perpétraient au niveau de la bande d'Gaza. Mais le gouvernement palestinien n'a pas ratifié la Cour pénale internationale.
Le gouvernement du Soudan n'a pas ratifié.
Le gouvernement pour le Soudan, c'est les Nations Unies qui ont saisi la Cour, bien que le Soudan ne soit pas État parti. Donc si nous regardons les pays qui ont, par exemple, ratifié le statut de Rome, les pays africains, il y a à peu près 34 États qui ont ratifié le statut de la Cour. Et ce sont ces États aujourd'hui qui également avaient saisi la Cour. Je sais que le Mali a saisi la Cour, la Côte d'Ivoire a saisi la Cour.
La Côte d'Ivoire a fait transférer Laurent Gbagbo, mais il y a des partisans d'Alassane Ouattara qui ont commis des atrocités pendant la crise post-électorale. Ils sont libres là-bas, à Abidjan.
Pour la plupart des pays en sortie de crise, malheureusement, ces pays en général, ce à quoi on assiste, c'est à la justice des vainqueurs. On sait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, aussi bien les forces qui étaient engagées du côté du Nord ont commis des exactions très graves. Mais on ne poursuit que dans un seul camp.
On écoutait Aboubakri Mbodji, secrétaire exécutif de la RADO, la rencontre africaine de défense des droits de l'homme.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, coup de projecteur sur la pandémie du sida qui continue notamment d'affecter l'Afrique subsaharienne. Pour beaucoup d'ONG, l'urgence de la crise Ebola ne doit pas reléguer la lutte contre le sida. Vos commentaires sur la page Facebook de la VOA ou à fr@voanews.com. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h PU sur VOA Afrique.
Dans le monde, de plus en plus de pays procèdent au filtrage de l'Internet et adoptent des lois permettant une plus grande surveillance des activités en ligne. C'est ce qui ressort du rapport État de la Toile 2014 de l'ONG Freedom House. Cette ONG, basée ici à Washington, a noté une dégradation de la situation dans des pays comme la Russie, la Turquie, le Zimbabwe, mais aussi, dans une certaine mesure, ici, aux États-Unis. Pour un éclairage, Timothée Donongmaï s'est entretenu avec Adrian Chabaz, chercheur sur les droits de l'Internet de Freedom House.
En Turquie, on a vu des efforts concernant l'Internet, sur même les réseaux sociaux. On a vu le blocage de Twitter et YouTube avant les élections en mars. Dans l'Ukraine, on a vu, à cause de la révolution, la pression qui monte sur les journalistes qui écrivent sur l'Internet. On a vu quelques journalistes qui sont battu même lorsqu'il filme les manifestations et aussi des blogueurs qui ont été attaqués par des forces pro-gouvernementaux avant la révolution. Les usagers de l'Internet n'ont même pas accès dans certaines régions comme la Crimée pendant la révolution.
Vous notez que la situation reste aussi inquiétante en Arabie Saoudite, par exemple.
Oui. En Arabie Saoudite, on a vu des arrestations des défenseurs des droits humains comme Mukhlif Hashemari et d'autres pour des sentences de même presque 15 ans en prison pour des choses comme des vidéos montées sur YouTube et même des appels au roi de faire des réformes et ensuite d'améliorer la situation quant aux droits humains dans le pays. Et on a même vu le blocage de quelques sites indépendantes qui donnent des nouvelles aux Saoudiens. Mais aussi, il faut dire qu'en Arabie Saoudite, les réseaux sociaux comme YouTube et Twitter sont très, très usés par les Saoudiens, même si on a des restrictions sur qu'est-ce qu'on peut mettre comme vidéo et comme post sur les réseaux.
Qu'en est-il de l'Afrique?
Cette édition du rapport constate que 8 sur 12 pays d'Afrique subsaharienne évaluée expérimentent des baisses de la liberté d'Internet pendant notre période de couverture. Les 4 pays restants n'enregistrent aucun changement, aucun pays ne montre des améliorations, contrairement aux années précédentes.
Freedom House note aussi une situation préoccupante ici aux États-Unis.
Oui, alors les États-Unis ont diminué leurs notes cette année, principalement en raison des révélations continues au sujet des pratiques de surveillance de la NSA. De nombreux utilisateurs d'Internet sont auto-censurés en raison de ce manque de sécurité dans leurs communications et leurs activités en ligne.
Voilà, c'était Adrienne Chabaz, chercheur sur les droits de l'Internet de Freedom House à Washington.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retour sur l'affaire Eric Garner, ce noir de 43 ans qui a été tué par un policier blanc à New York par étranglement au cours d'une interpellation. Timothée Denangmaï pour un éclairage a joint Marc Elias. Il est un ancien chef de police dans le nord de la ville de Miami.
La loi est extrêmement claire. Lorsqu'un policier vous dit d'accord ou d'arrêter et vous pose des questions, on doit comprendre que le policier fait son travail. Mais maintenant, lorsque vous frappez le policier, on doit essayer de comprendre. Il y a deux types de lois ici. Il y a les felonies et les misdemeanors. Les felonies, ce sont des lois qui sont beaucoup plus graves. Par exemple, si vous frappez un policier, c'est quelque chose qui est grave.
Dans le cas de New York, le suspect n'a pas frappé les policiers.
Ah, c'est ce qu'on a dit, oui. Qu'il n'a pas frappé le policier. Le policier lui a dit, OK, vous allez être en état d'arrestation. Il n'a pas agréé à la demande du policier. Ce qui est arrivé avec le New York, où le policier, j'ai vu ça à la télévision, lui a donné un clé de cou. Je peux te dire qu'en Floride, depuis l'année 2000, on ne traîne pas les policiers à l'académie et tous les différents agents de police sachent qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais écoute, lorsque un policier va parler avec quelqu'un, même si la personne est un peu agitée, on nous apprend de quoi de calmer la situation. On n'agit pas subitement pour retirer le bâton ou bien l'homme. On fait ce qu'on appelle le verbal judo, c'est-à-dire on essaie de parler avec la personne et de calmer la personne. Donc, ces deux situations, c'est un peu différent parce que le premier avec Ferguson, on nous a dit qu'il a frappé le policier. Donc, lorsqu'il a frappé le policier, il a pris fuite. Mais maintenant, lorsque le policier lui a dit, d'après ce qu'on a dit, de s'arrêter, il a levé les deux mains en l'air. Dès qu'on enlève les deux mains en l'air, on n'a pas le droit de torturer quelqu'un, d'accord? Parce que ça, ce sont les lois ici, en Floride. Mais encore une fois, si on dit par exemple, si vous frappez un policier, vous êtes considéré comme un homme qui est homme et dangereux, et le policier peut, à ce moment, prendre des sanctions contre vous. Tandis qu'en Floride, on vous dit que dès que tu lèves les mains, on n'a pas le droit de quoi de vous tuer.
On entend souvent dire que les policiers ont besoin d'un peu plus de formation pour mieux se comporter au sein des communautés. Qu'en dites-vous?
Oui, non seulement les formations à l'académie, mais lorsqu'il est, par exemple, à la police également. Je vais vous donner un exemple, d'accord? Quand j'étais chef de la police pendant les 4 ans à North Miami, dès que le policier rentre pour savoir okay, où il va être affectué. On fait des cours de 30 minutes avec eux sur les différentes lois et comment pour aussi agir avec quelqu'un. Donc, constamment, on fait un recyclage avec les policiers.
Marc Elias est un ancien chef de police dans la municipalité de North Miami.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Nous savons que ce qui domine l'actualité en Afrique, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Alors, je reviens à vous, Bagassi Koura, pour parler à nouveau du tirage au sort. On en était au groupe C avec l'Algérie, première nation africaine au classement.
Le vrai groupe de la mort, hein.
Oui, et dans le groupe D, parlons des éléphants. Les éléphants de la Côte d'Ivoire.
Oui, les éternels favoris, hein, et on espère, j'ai pas trop entendu cette expression cette année, s'ils sont vraiment favoris, comme on le disait. Vous savez, Didier Drogba n'est plus là, et Yaya Touré n'est plus aussi assez brillant comme les autres années. Donc,
je ne sais pas si c'est le journaliste sportif qui parle ou le fan des étalons.
Non, c'est le journaliste sportif qui parle, parce que les éléphants feront face au Cameroun. Le Cameroun qu'ils ont rencontré lors de ce match qui s'est terminé sur des notes assez polémiques. Hein.
Et quelques notes de la NBA rapidement.
Alors hier soir on a ces résultats. Boston a battu Détroit 109-102 et Atlanta a eu raison de Miami 112-102. Memphis a battu Houston 196-105. Memphis est tombé face à Houston et donc Dallas a battu Milwaukee 107-105. Chicago a défait Charlotte 102-95. Washington a eu le dessus sur les Los Angeles Lakers 111-95. Et victoire de Toronto, nos amis canadiens, sur Utah 123-104. Et enfin, Chirouin, les Los Angeles Clippers, cette fois-ci, ont battu Orlando 114-86.
Pourquoi ne pas signaler aussi que les Spurs, mon équipe, se sont inclinés 95-93 face à Brooklyn. Merci Bagassi.
C'est l'heure de la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Alicia Keys dévoile la balade We Gotta Pray pour rassembler les Américains. Elle prône le rassemblement avec cette nouvelle chanson qu'elle vient tout juste de dévoiler en réponse aux nombreuses manifestations qui divisent les communautés. Des nombreuses autres manifestations sont organisées à Ferguson, Cleveland et New York City en réaction à la mort des deux hommes ici aux États-Unis, Michael Brown et Eric Garner. Écoutons. We gotta pray. Alicia Keys compte apaiser les esprits et rassembler les communautés autour de la chanson We Gotta Pray qu'elle vient juste de dévoiler. La vidéo met également en relief le drapeau américain dont les bandes rouges et blanches ont été remplacées par des mots paix, amour, égalité et harmonie entre autres. On doit prier pour le monde ce soir. On doit sauver quelqu'un ce soir, chante Alicia Keys à travers ce piano et cette voix émouvante qui s'inscrit dans la lignée de ses plus belles ballades. Voilà Morgane, c'était Alicia Keys dans We Gotta Pray.
Merci Roger.
Et c'est moi qui vous remercie Morgane.
Et je rappelle que vous retrouvez Roger Muntou tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. C'est la fin de cette édition qui a été mise en onde par Michel Joseph. Nous avions à la console technique Micha Dubinsky.
Voilà, au micro, c'était Morgane Diriek et Chérubin Dursil. Un grand merci à toute la rédaction, notamment à Bagassi Courat.